C'est une célébration rétro, hein? On a eu des chants rétro. Et puis, on n'a pas de diapo pour le message. Est-ce qu'il y en a qui ont leur Bible? Oui, les chrétiens rétro. Pas rétrograde, là. Hein? Rétroprojecteur, non. Alors, on va suivre dans la parole de Dieu, mais si vous étiez ici les deux derniers dimanches, vous allez reconnaître un peu le sujet. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent qu'est-ce qu'on a vu les deux derniers dimanches? Quelle parabole? Oui, l'homme riche, c'était pas une parabole. C'était ce qui a donné lieu à la parabole. C'était les ouvriers qui sont engagés à différentes heures. N'est-ce pas? Alors, on a essayé de voir quelles sont les valeurs, les principes que le Seigneur a voulu transmettre à travers ça. Et un des premiers principes, c'est que si Dieu nous traite selon la justice, sur la base de l'équité salariale, si on peut dire, qu'est-ce qu'on mérite? Quel est notre salaire? C'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Alors, l'être humain est dans cet état-là, que si on est jugé selon nos œuvres, pour le bien qu'on aura fait ou pour le mal qu'on aura fait, on est en déficit. Hein? Alors, le salaire qu'on mérite, c'est la mort. On ne peut pas rien faire pour mériter l'amour de Dieu, c'est déjà perdu. L'amour de Dieu ne se mérite pas. La faveur de Dieu ne se mérite pas non plus. Et la seule façon qu'on peut gagner ou recevoir l'amour de Dieu, c'est comment? Comment est-ce que je peux gagner l'amour de Dieu? Je peux savoir que Dieu m'aime. Hein? Comme un don. Hein? En acceptant Jésus-Christ, en acceptant l'offre de Jésus-Christ et en le recevant par la foi. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir ton amour. Je ne suis pas digne de ton amour. Je ne suis pas digne de... Je n'ai rien mérité. Je n'ai rien gagné. Et j'accepte le don gratuit que tu me fais de ton amour, de ton salut, de tout ce que tu as accompli pour moi. Parce que mon salut, c'est juste un acte d'amour de Dieu, hein, pour une personne qui était perdue. Alors, sur la base de l'équité salariale, on est perdu et on avait besoin d'une nouvelle alliance. Une alliance, un nouveau contrat avec l'humanité qui est perdue. Dieu a besoin de faire un nouveau contrat avec l'être humain. Dans la parabole, on peut la lire, peut-être ça va aider. C'est suite au jeune homme riche, suite à l'entrevue, si on peut dire, que le jeune homme riche a eu avec Jésus. Jésus a dit, « Viens et suis-moi ». Et après avoir entendu ces paroles, le jeune homme riche s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Etc., etc. Et Pierre prend la parole un peu plus loin, puis lui dit, « Voici que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? » Hein? Le jeune homme riche, au lieu de suivre le Seigneur, décide de retourner dans son ancienne vie, si on peut dire, ou sa vie de richesse et de confort. Tandis que Pierre lui a tout laissé, puis a suivi, puis dit, « Seigneur, qu'est-ce qu'on va avoir, nous? » Jésus lui répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous, de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant, ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Et là, il donne la parabole, car là, je suis dans Matthieu 19, chapitre 20, verset 1. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier. Alors, c'était équitable, c'était le contrat, c'était vous travaillez une journée, je vous donne un denier. Et c'était un denier, c'est le salaire d'une journée d'ouvrage. Alors, c'était équitable sur cette base-là. Tu fais tant, je te donne tant. Hein? Tu fais du bien, je te fais du bien. C'est l'équité. Et le problème, c'est que à la dernière heure, au verset 6, vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est il n'y a personne qui nous a embauchés. Allez vous aussi dans la vigne, leur dit-il. » Et c'est sous-entendu qu'il restait une heure de travail. Alors, le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers puis donne-leur ce qui leur est dû. Hein? » Alors, il a commencé par ceux de la 11e heure, ceux qui avaient travaillé une heure, puis il leur donne un denier. Alors, les autres ouvriers pensaient recevoir 11 fois plus, hein, sur cette base-là, sur la base de l'équité. Mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tard. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le premier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? » Et c'est sous-entendu que payer 12 fois le salaire régulier, c'est pas une bonne affaire pour le boss. Hein? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Hein? Que je sois gracieux, que je fasse grâce à ses ouvriers. Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Alors, ça, c'est le contexte. Et on voit que Dieu est juste. Dieu n'est pas cheap. Dieu est juste. La loi a été donnée et chacun va être traité selon ses œuvres. Chacun va être jugé selon les œuvres qu'il aura faites. Si je fais le mal, je mérite la punition ou la condamnation. Hein? Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi. Ça, c'est l'équité salariale. Quelqu'un qui fait le bien mérite le bien pour le bien qu'il fait. On récolte ce qu'on sème. Alors, c'est tous des principes qui sont bons. Un bon mariage, une famille fonctionnelle, si on peut dire, c'est là où il y a une équité. On se fait du bien l'un l'autre. Un mariage heureux, c'est un lorsque les deux personnes se font du bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais comme une balance, puis tu avais le mari sur un bord, puis la femme de l'autre côté. Et puis, si tu fais un pas dans la bonne direction, puis l'autre ne le fait pas, c'est débalancé. Et ça risque de basculer. Alors, le mariage dans notre société, puis en principe, puis c'est quelque chose de correct, c'est « je te fais du bien, tu me fais du bien. Je te fais du bien, tu me fais du bien. Je te fais du mal, je te fais du mal. Je te fais du mal, je te fais du mal. » Alors, c'est basé là-dessus. L'amour, ça se mérite. Hein? Dans le monde, là, l'amour, ça se mérite. Alors, toi, ma femme, tu vas mériter mon amour, puis toi, mon mari, moi, le mari, je dois mériter son amour. Et si on réussit à faire ça, on a un bon équilibre, puis on risque d'être heureux en mariage. Le conjoint doit mériter l'amour de l'autre. Sinon, il y a un déséquilibre, c'est unilatéral, c'est toujours un qui fait du bien à l'autre, puis l'autre ne répond pas ou fait du mal, c'est la chute. C'est pas réciproque. Est-ce qu'il y a des non-chrétiens qui sont plus heureux, plus épanouis ensemble dans le mariage que les chrétiens? Ça se peut, hein? Ça se peut très bien. Paul dirait qu'ils font naturellement ce que prescrit la loi. Hein? Ils ont une conscience sensible. ça ne les sauve pas, mais ils reçoivent ce qui leur est dû. Si je fais du bien, il y a de bonnes chances que je vais récolter du bien en retour. Et lorsqu'on est bâti là-dessus, on peut être heureux, même si le Seigneur n'est pas dans le portrait, même si on ne connaît pas le Seigneur. Hein? Ils font naturellement l'équité salariale, je pourrais dire. Est-ce qu'il y a des croyants qui... Ça se peut que des croyants fassent des mauvais choix? Qu'on fasse des mauvaises décisions? Je ne parle pas nécessairement de conjoints, là. Je parle en général. Alors, ça se peut qu'un chrétien fasse des mauvais choix, des mauvaises décisions, prenne des mauvaises décisions dans sa vie. Est-ce que parce que je suis chrétien, je suis exempt des conséquences? Non? Hein? Je suis sur le même principe que dans le monde. C'est juste que pour le croyant, il n'y a pas de condamnation. Hein? Correction, hein? Parce que le Seigneur nous aime, mais il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la différence. Si le non-croyant fait des bons choix, est-ce qu'il est exempt de la bénédiction? Hop! Non. Hein? Est-ce qu'il va récolter les bienfaits selon ce qu'il a semé? Bien sûr. La seule chose, c'est qu'il n'est pas exempt de la condamnation. Hein? Ça prend la grâce de Dieu pour ça, pour être exempt de la condamnation. Alors, un chrétien, moi le premier, je peux servir le Seigneur avec ce que Paul appelle un esprit de servitude. Hein? Un esprit qui, en résumé, c'est Dieu va m'aimer si. Dieu va m'aimer si je performe. Dieu va m'aimer si j'en fais assez. Dieu va m'aimer si... et ça. Je suis en train de gagner l'amour de Dieu. C'est très facile de retomber dans ce pattern, dans cette façon-là de fonctionner avec Dieu. Alors, c'est comme si je ramasse des points bonis avec le Seigneur que je peux échanger pour bénédiction, conscience en paix, une bonne conscience, plein de choses qui... des exaucements à la prière. Hein? Alors, est-ce que je suis dans ce pattern-là? Dieu va m'aimer si? Ou je suis encore dans la crainte? Hein? Ce n'est pas un esprit de servitude que vous avez reçu, un esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa ». La relation a changé. C'est plus maître avec un esclave qui fait ce que, même de bon cœur, qui fait ce qu'il a à faire, puis c'est un point, c'est tout. Non, c'est une relation d'amour. Hein? Dieu m'aime comme un fils, et en retour, je l'aime comme mon père. Alors, le mensonge, au départ, si je suis dans le mode « Dieu va m'aimer ici », le mensonge qui sous-entend ça, qui est derrière ça, c'est que Dieu ne m'aime pas vraiment comme je suis. Hein? Et je suis dans l'effort de gagner l'amour de Dieu. Si je l'aime, il va m'aimer en retour. Je vais mériter son amour. Mais la vérité, c'est l'inverse. Et j'avais plein de versets dans le... Vous les connaissez probablement. Hein? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, même donner tous mes biens, même donner ma vie, si je n'ai pas l'amour, ne sert à rien. Hein? Alors, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de bien, mais si on n'a pas l'amour de Dieu au départ, toutes les motivations sont faussées. La motivation pour faire le bien, c'est « j'ai reçu l'amour de Dieu ». et je réponds à l'amour de Dieu. Si je n'ai pas ça, je suis dans la servitude. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est versé présentement dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je dois recevoir l'amour de Dieu si je veux être capable de le répandre, de l'expérimenter premièrement, puis de le donner ensuite. Alors, la question c'est, est-ce que Dieu m'aime? On va le dire des lèvres. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. J'ai plein de versets dans Romains, dans Jean, qui nous prouvent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Alors, ça se peut qu'on sache tout ça dans notre tête, mais qu'on ne l'a pas expérimenté dans notre cœur et qu'on soit en déficit. On a désespérément besoin de l'amour de Dieu. Tout être humain a désespérément besoin de sentir, d'expérimenter l'amour de Dieu. S'il n'a pas ça, tout ce qu'il va faire, c'est perdu. Le premier et le plus grand commandement, la chose la plus grande qui est demandée à un être humain, tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est là que ça commence. Et même pour les chrétiens. Je dois expérimenter, moi le premier. Je dois être dans l'expérience de l'amour de Dieu. Si je débarque de là, je ne suis pas dans la bonne alliance. Hein? Dieu nous a aimés en premier et on répond à cet amour-là. Parce que personne ne peut gagner l'amour de Dieu, il faut la recevoir et ensuite être capable de la donner. Qu'est-ce qui distingue, dans la parabole qu'on a lue tantôt, quelle est la caractéristique qui révèle que les ouvriers n'avaient pas des bons motifs de servir? Ça a été quoi leur réaction lorsque, à la grâce de Dieu, si on peut dire, pour les autres, ils étaient envieux, fâché, mécontent. Il n'était pas content. Alors, si je veux savoir que je sers, hein, le pasteur, il sert dans le bon esprit, rempli de l'amour de Dieu, c'est quand le pasteur, il n'est pas content. Oui, je me donne comme exemple parce que hein, c'est ma réalité. Et là, je dois dire, « Oups, Michel, si je ne sers pas le Seigneur avec joie, c'est parce que mes yeux ne sont pas centrés au bon endroit. Ma motivation, le signe que ma motivation est tout croche, c'est que mes yeux sont centrés sur l'autre personne ou sont centrés sur ma personne. Je dois me dégocentrer, hein, et me théocentrer dans ce temps-là. Alors, c'est normal qu'on soit déçu, c'est normal qu'on soit fâché des fois, qu'on soit irrité quand c'est des choses qui sont irritables. Mais qu'est-ce que je fais avec cette douleur-là, cette colère-là? Hein? Lorsque je réussis à remettre le jugement à Dieu, je reçois la paix en retour. C'est Dieu qui s'en occupe. Moi, je peux vraiment goûter à l'amour de Dieu. Alors, prochaine fois que tu es fâché, tu es mécontent, parce que tu as servi le Seigneur, puis il n'y a pas eu les effets peut-être escomptés, ou parce que tu dépenses, puis ça ne donne rien, puis l'autre à côté, il est béni. Hein? Alors, ça, c'est le signe caractéristique de la personne qui ne sert pas dans le bon esprit. L'autre qui a passé la journée en attendant qu'il y ait une opportunité de servir, parce que c'est ça, lorsqu'il le maître leur dit « Allez dans ma vigne », qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont négocié? Combien tu vas nous donner pour une heure? Ça ne vaut pas la peine, hein, travailler une heure. Rien de ça. Hein? Et même, tout de suite, ils sont partis. Tu es tellement content de travailler. Il n'était pas là parce qu'il était paresseux, il était là parce qu'il n'y avait rien à faire. Personne ne voulait d'eux autres. Ils étaient comme les rejets de la main-d'œuvre. Et puis, lorsque l'opportunité s'est présentée, waouh, on y va. Puis, peu importe ce qu'il va nous donner, ça, hein? Peu importe le salaire qui est en retour, ils ont été choisis, élus. Puis, ils étaient contents de ça. Il y avait l'opportunité, c'est un privilège de servir. Hein? Et mes frères et mes sœurs, chaque petit geste, lorsqu'on obéit au Seigneur, n'importe où, hein? Quand c'est à l'église, waouh, ça rapporte. Il y avait la vaisselle ici, là, ça c'est payant comme, hein, point boni. Mais l'affaire chez nous, l'affaire pour quelqu'un qui n'est pas capable de la faire, ça c'est invisible, ça n'a pas de, non, hein, n'importe où. On peut vraiment servir le Seigneur et être heureux de servir le Seigneur, peu importe ce que ça rapporte. Peu importe ce que ça me coûte, je dirais. Chaque geste. Le point important, c'est servir le Seigneur avec joie. Le Seigneur me martèle avec ça. Michel, est-ce que tu sers le Seigneur avec joie? C'est sûr qu'il y a des affaires que tu t'en vas te faire crucifier, là, fait que c'est pas joyeux. Mais waouh, juste, OK Seigneur, je le fais parce que je suis convaincu que c'est ce que tu me demandes de faire. Et la joie qui vient pendant que je le fais, elle n'est peut-être pas là avant, mais je vous garantis qu'elle va être là pendant et qu'elle va être là après, quand tu vas revenir. Et même s'il n'y en a pas de résultat, même si tu penses que tu as perdu ton temps avec cette personne-là, non. Le Seigneur, j'ai servi le Seigneur et je suis content, satisfait. Peu importe ce que ça me rapporte égoïstement ou orgueilleusement, je suis libéré de ça. Je sers le Seigneur dans des petites choses. Hein? Et je suis sûr que vous avez connu ça, on a connu ça, servir le Seigneur dans les petites choses, juste de le faire, comment que c'est bénissant. Et je dirais que Jésus a dit à Pierre, « Inquiète-toi pas, mon Pierre, pour les récompenses. Inquiète-toi pas pour, tu vas avoir au-delà de toutes tes espérances, tu vas être assis avec moi sur 12 trônes, tu vas juger. Hein? Puis peu importe, tous ceux qui vont avoir quitté à cause de moi, contrairement aux jeunes hommes riches, vont recevoir au centuple ce qu'ils ont laissé sur terre pour servir le Seigneur. Et il y a un autre signe. Alors, un premier signe, c'est lorsque je sers le Seigneur, qui doit être là, la joie, hein? C'est un privilège, peu importe ce que je fais, parce que j'ai la joie du Seigneur de le faire. Et si je ne l'ai pas, mais je peux la retrouver en me centrant sur les bons objectifs, qui est Dieu. Me centrer sur Dieu, me centrer, au lieu de me centrer sur les autres et sur moi-même. Un autre signe. Êtes-vous prêt à servir? La réponse, elle était, pas pris une heure pour se décider. Elle était trop tard. Hein? Une réponse immédiate, spontanée. Ils attendaient que le signal. Ils sont sur la ligne de départ, puis ils attendent le signal de départ de la part du maître. Puis, ils sont partis. Hein? Ils ont obéi de tout cœur, sur le champ, à ce que Dieu leur demandait. Le jeune homme riche, lui, il a pesé ça dans la balance, puis le pour et le contre, le prix à payer, je vais perdre ça, puis et le temps qu'il a embarqué dans ce dans cet engrenage-là, il a perdu l'occasion, une occasion unique. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait après, mais quand il est mort, le gars, puis qu'il a vu jusqu'à quel point il est venu proche d'être un disciple de Jésus-Christ, d'être un apôtre de Jésus-Christ, possiblement, parce qu'il dit, viens, puis suis-moi. Jusqu'à quel point on est proche et on ne doit pas hésiter lorsque le Seigneur nous appelle. Alors, une caractéristique, c'est répondre à l'opportunité quand elle se présente, quand elle passe. C'est pas y réfléchir. C'est parce qu'on est attentif, puis on est à l'écoute. Puis dans la prière, j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse aujourd'hui. Pensez-vous que Dieu va répondre à ça? Sincèrement, si je suis sincère, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse aujourd'hui. Et si je suis sincère, je vais entendre sa voix, je vais écouter sa voix. Petit geste, un petit sourire, mais je suis disponible, je suis disposé, je suis prêt à faire ce que le Seigneur va me montrer durant la journée, à l'épicerie, au travail, peu importe l'occasion. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est une caractéristique d'une brebis du Seigneur, c'est qu'elle est prête à faire ce que le Seigneur lui demande. On voit ça dans les hommes de Dieu dans la Bible, hein? Ils ont obéi quand Dieu leur a demandé. Un Paul ou un Jean, peut-être pendant 40-50 ans. Leur ministère a duré pendant 40-50 ans. Jacques et Étienne, les premiers martyrs, ça a duré quelques mois, ça a duré quelques années. Hein? Mais les quatre, si on peut dire, ces quatre personnages-là, ils ont simplement obéi à l'appel du Maître. Il y en a que c'est pour un grand ministère mondial, une influence mondiale. Hein? Il y a des personnes qui sont appelées, qui ont une influence dans l'Église d'une façon extraordinaire, très visible. Il y en a d'autres qui ont passé leur vie en prison à cause de leur foi. Des pasteurs qui ont été emprisonnés dans le temps de la Russie, la Chine communiste, toute leur vie en prison. Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Il y a des gens qui sont dans des situations qui sont très limitées, qui ne peuvent pas servir le Seigneur pour toutes sortes de raisons. Puis il y a des gens qui ont des opportunités d'exercer leurs dons, d'exercer leur ministère que Dieu leur a donné et qui sont payés pour le faire même. Hein? C'est un privilège. Il y en a qui n'ont pas le temps. Celui qui était esclave durant l'esclavage, peut-être qu'il n'avait pas le temps. Est-ce qu'on est dans une société d'esclavage? Pensez-y deux minutes. Qu'est-ce qui a remplacé le fouet? L'argent. C'est esclave. Il n'y a pas le temps. Il y en a qui n'ont pas la santé. Il y en a qui n'ont pas l'énergie. Il y en a qui n'ont pas les moyens. Et peut-être dans une situation difficile. Puis j'ai été dans une situation difficile aussi. Des problèmes, des handicaps. Problèmes de santé ou psychologiques, ou toute mon énergie, c'est juste de flotter, là. Demandez-moi pas rien, là. Je vais juste flotter, réussir à respirer de temps en temps. Hein? Ça se peut que tu sois dans cette situation-là. T'es comme en prison. T'es comme en survie. Mais Dieu, il connaît ton cœur. Dieu, il voit ton cœur. Dieu, il connaît le désir de ton cœur. Et je suis sûr que même si c'est une petite chose, tu vas être heureux de le faire quand il va te demander de le faire. Juste être attentif, juste être écouté. Seigneur, tu connais ma situation. Est-ce qu'il y a une petite... Je ne peux pas tout faire, Seigneur, mais je peux-tu faire une petite chose pour toi aujourd'hui? Et je vais être content. Alors, servir avec joie et être prêt à servir le Seigneur. C'est les deux caractéristiques sous la grâce, je pourrais dire. Et je dois examiner mon cœur tout le temps. Moi le premier. Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis prêt à servir le Seigneur dans ma situation? Il dit qu'il ne nous donnera pas des fardeaux qui nous écrasent, qui sont au-dessus de nos forces. Il va nous donner quelque chose qu'on est disposé à faire, qu'on va aimer faire. Il s'agit juste de s'embarquer, s'engager. Il y a une grande récompense, pas nécessairement ici sur Terre. Et quelle est cette récompense? Ouais, moi je couperais deux syllabes. Le roi. Est-ce que vous pensez que Cendrillon, c'est ça la photo, hein? Est-ce que Cendrillon a épousé le prince pour son argent? Est-ce qu'elle avait hâte de quitter ses guenilles? Probablement. Hein? Mais on a été fiancés à Jésus-Christ. Et puis, est-ce que c'est pour son argent? Pour tout ce que ça procure, tout ce que ça nous donne, ou ce que ça va nous donner, ce que ça va nous rapporter? Non. Certainement qu'on peut avoir hâte à l'héritage, on peut avoir hâte de quitter ses guenilles terrestres, puis revêtir le corps céleste, être dans la vie divine, participer à la vie divine pour l'éternité. Certainement qu'on peut avoir hâte, mais on a surtout hâte de voir Jésus-Christ, voir l'Époux, voir le Père. C'est ça qui nous motive. J'ai hâte de voir le Seigneur, mon Seigneur. As-tu hâte de voir ton Seigneur? Et le Seigneur nous a laissé un repas à prendre ensemble. Ça fait 2000 ans que ça dure. Et ce repas-là, ça nous parle de quoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on se souvienne? Son amour. Hein? Son amour. Comme le Père m'a aimé, je vous aime. C'est à quel point le Père a aimé Jésus, son Fils. Tu peux? Comme ça? Comme ça? Hein? Il n'y a pas de limite. Pas de limite. Ouais. Mais est-ce qu'on comprend que c'est comme ça que Jésus t'aime? Que Jésus m'aime? Comme son Père, comme mon Père m'a aimé, Jésus dit, moi aussi je vous ai aimé, moi aussi je vous aime présentement. Et quelle est la preuve de ça? Ouais, si quelqu'un est mal pris, là, puis il est dans la hume, là, je vais-tu plonger là-dedans? Hein? Jésus a plongé dans la hume. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de recevoir le pardon de Dieu pour tout ce qu'il a fait de mal? Tous les jours? Est-ce qu'il y a quelqu'un besoin de comprendre, expérimenter l'amour de Dieu? Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien compris encore. Alors, saisissons l'amour de Dieu ce matin. En prenant la coupe, en prenant le pain, qu'on puisse recevoir un cadeau de la part de Dieu qui non seulement efface tous nos péchés, mais nous donne une vie nouvelle, une vie éternelle en retour. Lorsque je vais mourir, on a deux sœurs qui sont mortes récemment, qui étaient là dans notre église, Marie-Clara et Lise. Peut-être que vous ne l'avez pas connue, elle était plus à la... Elle est venue quelques fois ici. Elle n'avait pas de cheveux, elle avait le cancer. Oui, dimanche dernier, elle est morte. Vendredi dernier. Oui. Oui. Ils sont où? Ils sont où, là? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont avec leur époux et leur père dans les bras d'amour. Ça, c'est assuré à 100%. Hein? Et c'est ce qui nous attend. Mais c'est ce qu'on peut aussi expérimenter à tous les jours. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'expérimental, ce n'est pas juste cérébral. Est-ce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu? Est-ce que cette semaine-là, peut-être ton cœur est froid, peut-être ton cœur est loin, peut-être que... Fais cette prière-là, Seigneur. Je sais que tu verses ton amour dans mon cœur, j'aimerais ça y goûter. Jusqu'ici, Seigneur, j'ai juste liché la vitrine d'une pâtisserie. Puis c'est écrit dans la Bible, puis il me semble que je goûte rien. On peut-tu briser la vitre, puis... mettre nos doigts dans le gâteau, puis, hein, comme un enfant, là, sa fête, puis, il goûte à l'amour de Dieu. Parce que si j'ai pas goûté l'amour de Dieu, j'ai rien vécu encore avec le Seigneur. Ça, c'est la motivation. Alors, juste faire cette prière-là, on va la faire maintenant, et se préparer pour le repas du Seigneur. Je vais inviter, est-ce qu'il y a des anciens hein? En fonction. Ils sont tout occupés. OK, on a Daniel, Bill, vous pouvez venir. Seigneur Jésus, juste avant de donner sa vie, a rassemblé ses disciples autour de la table. Juste avant ça, il leur a lavé les pieds pour leur démontrer jusqu'à quel point hein, il a mis le comble à son amour. Imaginez-vous Jésus ici qui vous lave les pieds. Il est à genoux devant vous. Pierre dit, non pas moi, Seigneur. Il a compris qu'il n'en était pas digne. Et Jésus lui a dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne seras pas pur. Et il a répondu, Seigneur, lave-moi de la tête aux pieds. Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne mérite pas ton amour, ta grâce. Peut-être qu'il y a des gens ce matin qui m'ont dit, j'ai tout raté, j'ai tout floppé. Et le Seigneur dit, venez à moi, viens à moi, tel que tu es. Reçois mon pardon. Je t'aime. Sans limite, sans condition. peux-tu faire cette prière? Seigneur, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait, tout ce que j'ai dit de mal, tout ce que j'ai pensé de mal. Je le confesse. Je ne mérite pas ton amour. Mais je comprends que lorsque tu es mort sur la croix, c'est pour moi que tu es mort. Tu as pris ma place. Tu as payé la condamnation, la mort que je mérite. Et je reçois maintenant ton salut. Je reçois ton pardon. Je reçois ton amour. Seigneur, je crois en toi. Tu es mon sauveur, mon maître, mon époux. Viens, Seigneur Jésus. Entre dans mon cœur. Verse dans mon cœur par ton Saint-Esprit ton amour maintenant. Je reçois ton amour maintenant. Seigneur, tu m'aimes. Merci pour cette grâce infinie que je n'ai pas méritée. Et je veux me relever avec un désir, Seigneur, de faire ta volonté, te servir, te suivre. Avec joie. Je veux saisir toutes les occasions. Avec un cœur reconnaissant. Amen.